Auteur du Monde, le podcast des éditions Globe. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain-poète Liao Yiwu, dont nous publions l'ouvrage « Des balles et de l'opium ». Souvent comparé à Soljenitsyne, Liao Yiwu poursuit son œuvre de mémorialiste et restitue le vécu des gens ordinaires. Son œuvre donne une vision unique de la grande histoire, du mouvement démocratique chinois et de son écrasement il y a 30 ans, le 4 juin 1989. Massacre, dont certains extraits sont publiés au début du livre, est un poème reportage-performance écrit le 4 juin 1989 qui circulera clandestinement dans toute la Chine et lui vaudra 4 ans de camp de travail.
Et maintenant, rien. Point de lumière. Aucune lumière au centre du pouvoir communiste. Notre cœur tout noir devient aussi brûlant qu'un grand feu engloutissant tous les cadavres. Un jour, nous pourrons exister. Le gouvernement qui nous dirige disparaîtra un jour. Mais maintenant, ce jour finissant n'a pas un rayon de lumière. Jouissant, les bourreaux crient de plaisir. Rentrez, mes enfants, au cœur froid. Rentrez, vous qui ne tenez que des pavés. Rentrez, filles aux lèvres pâles. Rentrez, mes sœurs, mes frères blessés, tachés de sang et de cerveaux éclatés. On avance silencieusement. On avance sur une route suspendue. On avance et nous trouverons toujours un endroit où notre âme pourra s'apaiser. Avancez, nous pouvons toujours découvrir un endroit sans un bruit de fusil. Mais nous voulons nous cacher dans une herbe, dans une feuille. Dites-moi, oncle, tante, grand-mère, père, mère, la maison est-elle encore loin? Ah non, nous n'avons plus de maison.
Je suis aujourd'hui avec Liao Yiwu, condamné à 4 ans de Laogai, le bagne chinois, pour avoir écrit le 4 juin 1989 ce long poème, reportage, performance, qui circulera clandestinement dans toute la Chine. 4 juin 1989, des milliers d'étudiants se rassemblent dans les rues et sur la place Tiananmen pour réclamer davantage de démocratie et de justice. Le pouvoir répond par des balles, des baïonnettes et des chars d'assaut. Et aussitôt après, propose au peuple des faits un nouvel opium. L'argent, à tout prix. Liao Yiwu, vous êtes de passage à Paris. Nous sommes ici chez Marie Holzmann qui vous accueille. Au début des années 80, vous avez lu sous le manteau Jacques Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs. Vous étiez une sorte de vagabond sur les routes de la Chine des quatre modernisations. Un poète de la Beat Generation, perdu en plein Sichuan. Pouvez-vous nous dire quand avez-vous écrit ce poème ?
C'était écrit durant la soirée du 3 au 4 juin.
Avant les événements du 4 juin 1989, quel genre d'écrivain étiez-vous, Liao Yiwu ?
J'étais un poète anarchiste. Je ne m'intéressais pas à la politique. Ce que j'aimais, c'était vagabonder. Celui qui m'a le plus inspiré, c'était Ginsberg. Et j'adorais ses poèmes. Et ce que j'aimais plus que tout, c'était de me promener en toute liberté.
Et qu'est-ce que le 4 juin 1989 a changé dans votre vie, mais aussi dans votre travail ?
Ce soir-là, oui, ça a changé ma vie, c'est sûr. Mais ça n'a pas changé que ma vie, ça a changé la vie des Chinois. Et j'irai plus loin, ça a changé le cours de l'histoire, parce que nous avons été la première pierre qui est tombée du mur du communisme. Par la suite, c'est le mur de Berlin qui s'est écroulé, l'URSS s'est effondrée, et on peut dire que les Chinois ont donné leur sang pour lancer cette roue de l'histoire vers la sortie du communisme, et eux n'en ont pas tiré les bénéfices.
Liao Yiwu, vous vivez maintenant en Allemagne. Est-ce que le fait de vivre en Occident vous donne envie d'écrire autre chose ? En d'autres termes, quelle est votre ambition d'auteur aujourd'hui ? Travailleur de la mémoire ?
J'ai écrit ce livre pour résister à la dictature. Évidemment, un livre, c'est quand même assez faible face à un dictateur. Pour le moment, mais un jour, ce ne le sera plus. Un jour, les dictateurs vont s'effondrer. Et mes livres, eux, ils vont rester. Et mes livres vont être des témoignages et des pièces à charge contre ces dictateurs. Donc, je l'écris peut-être pour les générations futures, pour qu'à travers ces livres, Ils sachent exactement ce qui s'est passé, ce dont il faut accuser les dictateurs et ce qu'il ne faut pas répéter.
Liao Yiwu, vous avez beaucoup écrit, vous continuez d'écrire. Comment travaillez-vous ?
Quand j'étais en Chine, pour mon travail, j'allais trouver des gens qui étaient comme moi, qui avaient fait de la prison, qui en étaient sortis. Et on se mettait à boire du vin ensemble. Et puis on commençait à évoquer le passé ensemble. Parce que moi aussi, j'avais fait de la prison. Donc j'étais en quelque sorte au même niveau qu'eux. Je connaissais leur misère. Et eux avaient envie de s'épancher et moi j'avais envie de les écouter. Donc on avait tout ça en commun. Et puis ce dont je pouvais parler aussi, j'appelle ça la maladie de la prison, c'est quelque chose qui n'est pas facile à évoquer lorsqu'on n'est pas sur le même plan de ressenti. C'était l'impuissance. Beaucoup de ces hommes qui avaient tellement manqué de femmes, quelquefois pendant 10, 20 ans de prison, quand ils sortaient de prison, ils n'avaient qu'une seule obsession, c'était trouver une femme, bien sûr. Et puis voilà que, à cause de toutes ces années, de tous ces fantasmes, etc., ils étaient devenus complètement impuissants. Et en général, il fallait beaucoup de temps avant qu'ils retrouvent leur équilibre et la possession, disons, de leur nature d'homme.
Liao Yiwu, on vous compare souvent à Solzhenitsyn. Est-ce que cela a été une évidence d'écrire sur le système carcéral chinois ?
Oui, c'est vrai. Les souffrances, les massacres, c'est le lot de l'humanité. On a vu qu'il y a eu tellement de malheurs dans les pays arabes. On a vu qu'il y a eu le 11 septembre à New York, il y a tant de gens qui sont morts. Oui, l'humanité tout entière souffre, chacun son tour, le monde souffre. Mais j'ai parlé, par exemple, avec des gens de l'ancienne Allemagne de l'Est, et en particulier avec Rolf Biermann, un rocker célèbre, qui m'a raconté que dans l'Allemagne de l'Est, les dirigeants avaient préparé des tanks et des chars et tout ça pour lutter contre les Allemands s'ils essayaient de se rebeller et demander la démocratie et la liberté. Mais on dit que, comme il avait assisté à la télévision, comme tout le monde, au massacre de la place Tiananmen, il a donné l'ordre qu'on ne tire pas sur la foule parce qu'il avait vu ce que ça pouvait être qu'une armée qui tire sur une foule de manifestants désarmés. Et pour l'URSS, je dirais que c'est la même chose. On a une photo de Yeltsin qui est assis sur un tank et qui dit « Vous avez des frères, des sœurs, vous n'allez quand même pas tirer sur vos frères et vos sœurs. » Et lui aussi a empêché qu'un massacre se répète. Donc je dirais, quand même, pour moi, ce massacre de Tiananmen, c'était aussi un avertissement aux autres dictateurs pour qu'ils ne répètent pas ce même schéma.
Des images ont fait le tour du monde. Cet étudiant face au tank. Savez-vous ce qu'est devenu cet homme ?
Le personnage de cet homme qui est devant les tanks, on l'a appelé Wang Weilin, mais on pense que c'est un faux nom, que c'est un nom qui a été choisi par les journalistes étrangers pour le situer. Donc ce Wang Weilin, dont on ne connaît ni la véritable existence, ni son destin, ni ce qui lui est arrivé après, est devenu le véritable symbole de la résistance à la répression. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que ce soir-là, il y a eu des centaines, des milliers de Wang Weilin. Lui, c'est le symbole, mais ce n'était pas le seul. Par exemple, la foule se précipitait et ne craignait pas les fusils qui étaient en train de lâcher leurs milliers de mitraillettes dans leur direction. Et par exemple, il s'était emparé d'un bus de la circulation routière et ces gens-là avaient pris le bus et c'est assez extraordinaire. Ils étaient très nombreux, donc ils ont bougé le bus par là pour empêcher le tank de passer, et ce mouvement, c'était vraiment une scène de film qu'on peut filmer d'en haut où on voit ce mouvement qui dure une heure. Donc pendant une heure, ils ont bloqué l'accès au moins d'un tank vers l'intérieur de la ville. Et ça, c'est vraiment... pour moi, ça symbolise l'acte héroïque, parce qu'eux étaient vraiment désarmés. Leur arme, c'était cet autobus qu'ils ont baladé pendant une heure.
Liao Yiwu, maintenant que vous vivez en Allemagne, n'avez-vous pas envie d'écrire d'autres choses, d'autres livres, des livres plus doux ?
Le problème, ce n'est pas que je n'ai pas envie d'écrire des livres plus tendres, c'est qu'il se passe tout le temps des catastrophes sur cette planète, et donc j'ai pas tellement le choix. Regardez la seule année 2017. Elle a connu la mort très rapide et inattendue de Yu Zhijian. Yu Zhijian était un de ces gars qui, sur la place Tiananmen, avait jeté des œufs sur le portrait de Mao Zedong et qui, du coup, a fait presque 20 ans de prison. Et puis ensuite, ça a été la mort de Liu Xiaobo. Liu Xiaobo, on a appris qu'il était malade. Et dès que j'ai appris ça, j'ai commencé à écrire comme un fou pour raconter ce qui se passait, qu'on voulait qu'il puisse sortir. J'ai appelé tous les dirigeants, les amis, etc., pour qu'ils fassent pression sur les dirigeants allemands, américains, français, et obtenir la libération de Liu Xiaobo vers l'étranger pour qu'il puisse mourir en liberté, comme on disait à ce moment-là. Et donc, tout ça, ça m'a complètement monopolisé. Et puis après, sa veuve Liu Xia est restée en Chine et elle n'arrivait pas à en sortir. Elle était constamment en résidence surveillée. Une fois, je lui ai téléphoné et elle s'est mise à pleurer. Elle pleurait. Donc j'ai enregistré ses larmes. Et puis, ne sachant pas quoi faire, j'ai allumé ma radio et j'ai mis un CD. Et c'était la musique de l'air de la chanson Dora Dora. Et sur cette musique, on entendait ses sanglots. Et puis cette musique qui, petit à petit, effectivement, l'a apaisé. Mais cet enregistrement, je l'ai envoyé. Et cet enregistrement a fait le tour du monde et a beaucoup ému toute la planète, qui, du coup, a fait plus de pression pour qu'elle puisse sortir. Et finalement, en juillet 2018, elle a fini par arriver en Allemagne. Et pendant qu'elle sanglotait, et à moi, elle avait dit plusieurs fois qu'elle envisageait de se tuer en se jetant par la fenêtre. Enfin, tout ça, c'était vraiment très, très tragique. Mais je ne vais pas vous raconter en plus toutes les catastrophes ou les tragédies dont j'ai entendu parler depuis et qui m'empêchent de devenir un simple membre de la communauté en exil à Berlin, sur laquelle j'aimerais aussi écrire et qui serait peut-être quand même moins tragique.
C'est comme si vous aviez une mission sur cette terre et que vous n'arriviez pas à vous en départir.
Réellement, lorsque j'ai décidé de m'exiler en Allemagne, j'avais vraiment envie d'aller vers la liberté et de me libérer, enfin de faire une rupture avec la Chine. Et je pensais que ce serait possible. Mais avec toute cette succession de catastrophes successives, de catastrophes humaines, et le fait que j'ai beaucoup d'amis qui ont été jetés en prison, et le souvenir de ces amis m'empêche de me taire. Je suis obligée de continuer à travailler pour eux, à parler d'eux, à écrire sur eux. Et donc je me suis dit, ben finalement, je pensais aboutir à une forme de liberté, et j'ai compris que j'ai toujours pas cette liberté.
Vous êtes en liberté, mais vous êtes toujours rattaché à l'histoire de la Chine. Quel est votre rapport aujourd'hui avec la Chine ?
Évidemment, je me trouve en face d'une dictature sur laquelle je n'ai pas d'illusion. Ce n'est pas moi qui vais parvenir à la renverser. Mais en tout cas, je peux écrire dessus, décrire ce qu'elle fait, les crimes qu'elle commet. Je peux alerter, je peux informer. Et tout en faisant cela, j'ai l'impression que je n'ai quand même pas complètement gaspillé ma vie.
Liao Yiwu, en Allemagne, avez-vous eu envie de rencontrer les habitants de l'ex-Allemagne de l'Est ?
Effectivement, en 2016, j'ai obtenu un prix qui est donné par des anciens de l'ex-Allemagne de l'Est. Il s'agit d'un prix pour des anciens prisonniers politiques qui étaient enfermés dans des bureaux, dans une prison qui dépendait de la Stasi. Et aujourd'hui encore, il y a une genre d'association de 200, plus de 250 des anciens de cette prison. Et lorsqu'on m'a décerné ce prix, vraiment, ça m'a profondément touché. Je considère que c'est un très grand honneur pour moi d'avoir reçu leur prix.
Avez-vous encore un peu d'espoir pour la Chine ?
En fait, cette prétendue Chine, moi, je m'en fous. J'ai aucune envie de rentrer en Chine. J'ai envie de rentrer au Sichuan. Au Sichuan, il y a ma mère, il y a mes proches, il y a mes amis. Au Sichuan, on peut boire un alcool terriblement dur, un alcool blanc du Sichuan, fabriqué dans ma province. On peut manger cette cuisine unique qui a toutes ses spécialités. Et puis, la Chine, on pourrait la diviser en une vingtaine de pays. Et à ce moment-là, eh bien, le Sichuan aurait toute son identité. Comme président, on pourrait choisir un bon cuisinier ou bien un ivrogne. Et puis, si on a envie de parler au président, on sait qu'on le retrouverait au bar et on pourrait discuter. Et puis, si moi, je peux rentrer en Chine, à ce moment-là, je pourrais facilement obtenir un visa pour Marie. Parce que, il faut bien que je la remercie. Ce serait une façon pour moi de la remercier. Parce que si je suis entendue en France, c'est parce que c'est elle qui traduit mes livres. Donc, je lui dois bien ça.
Marie Holzmann est votre traductrice en France. Comment vous êtes-vous rencontrée ?
Marie a traduit mes livres et puis c'est comme ça que petit à petit on s'est connus. Mais au début, je ne pouvais pas sortir de Chine. Mais elle fait ça pour beaucoup de gens parce qu'elle s'occupe beaucoup de défendre les droits de l'homme et donc ça l'occupe énormément. Et puis je sais que la plupart du temps, elle ne se fait pas rémunérer pour ses traductions.
Est-ce que la musique a adouci vos pensées, vos colères ?
Quand je récite des poèmes, j'aime bien utiliser cet instrument parce que ça fait une mélodie. L'un fait ressortir l'autre. Réciter et faire de la musique, évidemment, ça ne me fait pas vivre, mais c'est ce que je préfère faire.
Merci beaucoup, Liao Yiwu. Merci, Marie Holzmann.
Liao Yiwu est dorénavant un phare des éditions Globe, dont l'ambition est de reprendre à son compte la parole de Soljenitsyn. Hors de l'expérience littéraire, nous n'avons pas accès à la souffrance d'autrui. Inscrivez-vous sur notre podcast pour entendre la voix de nos auteurs, des auteurs au cœur du monde.
Thank you. 于是我们的黑发被岁月的血染得渐渐的苍白，我们的皮肤像龟裂的田野，龟裂的田野，心脏累了，血液累了，心脏累了，血液累了，我们要冬眠呐，在这样的国家，我们只有冬眠，只有冬眠，只有。